La une, hein, pas vivacité, mais la une, voilà, voilà.
Et peut-être pourquoi un projet comme ça, avec cette âle, a de valeur pour toi.
Ok.
Une petite question.
Et parlez vraiment sur un micro.
Je te demande beaucoup de choses. Hein.
Ah oui, c'est ça.
Ok, alors je me présente, je m'appelle Fatima Zibou, je suis un produit bruxellois, donc je suis de troisième génération, ce sont mes grands-parents qui sont arrivés à Molenbeek, mes parents ont grandi, se sont mariés à Molenbeek, je suis née à Berkheim-Sainte-Agathe, là je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et demi qui est la quatrième génération molenbeekois. Alors quand on me dit d'où vous venez ou parlez bien français, ça me fait toujours bien rire. Et j'ai étudié les sciences politiques et les droits de l'homme. Et depuis 2016, je travaille dans un centre de recherche à l'Université de Liège, qui est le centre d'études de l'ethnicité des migrations. Je travaille aussi dans d'autres centres de recherche, comme l'Institut d'études européennes, où j'ai travaillé sur les questions de diversité, les politiques d'intégration, le droit de vote des étrangers. J'ai publié aussi un bouquin sur la participation politique des personnes d'origine étrangère, hein, parce qu'à Bruxelles, il y a une belle représentation politique de la diversité. Et là, actuellement, depuis 2010, depuis plus de 2 ans et demi, je fais une thèse de doctorat sur les pratiques artistiques des minorités culturelles. Et donc, c'est un petit peu de voir comment les pratiques artistiques, c'est un moyen de mobilisation politique, un moyen de contestation, un moyen de réunir des gens qui créent du lien social. Et donc, voilà, il n'y a pas encore eu de travaux là-dessus. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'au niveau des personnes issues de l'immigration, notamment marocaines et congolaises, ce sont mes deux focus, il y a une véritable effervescence, que ce soit à travers la musique, hip-hop, musique traditionnelle, mais aussi dans le stand-up comedy, donc tout ce qui est humour, et également dans d'autres formes d'art, notamment exposition de tags ou de peintures, de portraits. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre en termes de présentation, c'est tout. Hein.
Non.
Voilà. Mais par rapport au projet, j'ai regardé un petit peu. Bon, je ne le connais pas très très bien parce que je n'ai pas suivi les différents ateliers que vous avez organisés. En tout cas, je le trouve assez intéressant parce que les mots qui étaient, parfois c'est des mots que je n'entendais pas. Et puis voir, tiens, pourquoi ces mots-là, pourquoi est-ce qu'elles revenaient. Je trouvais que ça avait vraiment une pertinence assez intéressante et elles indiquaient quelque part ce qu'était Bruxelles aujourd'hui en fait. Hein, et aussi une nouvelle façon de revoir le vocabulaire qui est couramment utilisé. Il suffit juste d'ouvrir ses oreilles dans le métro à Bruxelles ou dans le bus pour qu'on voit bien qu'il y a des mots qui sont utilisés, qui viennent parfois de l'argot, mais qui viennent aussi parfois des langues étrangères, qui sont utilisés un peu par tout le monde, et il y a une normalisation d'un certain vocabulaire qui n'est pas reconnu. Et je crois que l'intérêt de ce travail-là est d'avoir fait ce recensement de certains mots vocabulaires qui sont utilisés assez régulièrement, mais qui ne sont pas officialisés dans des manuels ou dans des dictionnaires, et donc d'où l'intérêt de ce projet-là. Voilà.
C'est difficile comme ça. Hein. Bon, voilà.
Tu veux que je t'aime ?
Non.
Moi, je pense que c'est pas difficile.
Non, non, tenir quelque chose, c'est pas facile. Bon, bref. Je m'appelle Rachida et donc je suis animatrice dans le cadre du contrat de quartier Nave Portals. Et donc, j'ai comme mission de travailler avec les habitants sur la participation. Et donc, je travaille énormément avec les enfants, les écoles, les mamans, et donc les habitants. Et je suis une personne qui essaie de comprendre les gens. Quand on me voit et que j'explique ce que je fais avec les enfants, j'essaie de creuser, de comprendre la personne et de l'orienter quand elle a des difficultés. Et souvent, les mamans attendent, quand on fait une animation, attendent pour pouvoir me parler. Et donc, je prends vraiment le temps. Et quand je les revois en dehors de l'école, je prends aussi le temps de demander comment ils vont, les enfants. Et ça crée vraiment de la confiance. Elles ont confiance en moi. Et moi, je peux aussi les orienter vers d'autres services comme nous. Ça, c'est une chose. Et puis, des fois, j'ai des missions qui n'ont rien à voir avec le contrat de quartier. Et moi, ça m'est égal. Même si on enregistre, je le fais quand même. Si un habitant qui veut redécouvrir la maison où il a habité et qui n'arrive pas à joindre ou à prendre contact avec la personne, eh bien, je prends un temps et je dis, OK, quelle est la maison que vous voulez visiter pour revoir. Donc, c'était une personne qui voulait redécouvrir sa maison, quand il était jeune, mais ce n'était pas possible. Donc, j'ai pris contact et il a pu la revisiter. Voilà. Des petites choses qui sont insolites, ça m'arrive de faire des animations qui n'ont rien à voir avec l'espace public, le logement. Mais voilà, quand on a des personnes qui ont envie de donner et de travailler, ben, je me lance, puis je cache un petit peu et puis je dévoile à tout le monde parce que c'est magique. Voilà. Et donc, je travaille pour... Un contrat de quartier était sur 4 ans et je termine notre dernière année en beauté. Je redémarre un nouveau contrat de quartier qui est près du contrat de quartier Coteau-Josaphat. Voilà. Et alors, on m'a invitée et je suis là. Voilà. Oui, mais c'est pas facile. Hein.
Non, je sais. Tu... Ouais. Pour moi, on ne va pas m'enregistrer.
Pourquoi pas?
Mais non, mais parce que c'est difficile. Parce que je veux gagner du temps. Alors, donc moi, je m'appelle Clémentine. Je vis à Schaerbeek, Bruxelles, depuis, je ne sais plus, 5 ou 6 ans. Et j'ai toujours vécu dans le quartier. Voilà. Et je travaille avec Peter et Anne sur ce projet depuis 2 ans. Et voilà, je m'occupe essentiellement des enregistrements.
Et la coordination,
mais voilà. Mais moi, j'ai fait plutôt des études de littérature et photographie, donc l'image. Mais depuis que je suis à Bruxelles, je travaille dans le son et dans la radio. Et voilà, c'est un médium que j'aime aussi beaucoup parce que ça reste anonyme, beaucoup plus que l'image. Et voilà, c'est un truc que j'apprécie. Voilà.
Paul.
Qu'est-ce que je dois raconter?
Oui, mais les gens, les autres, ils savent pas. Toi, tu l'as déjà fait. Tu te connais, mais les gens, ils te connaissent pas.
Donc, je suis un habitant du quartier.
Faut bien mettre le pas de micro.
Je suis un habitant du quartier depuis 1990. Et donc, je suis ici pour aider à la publication d'un livre sur les mots du quartier.
Il a trouvé 9 titres.
Oui.
Attends, donc ça c'est l'exercice de... Ah,
oui.
Regardez,
oui, voilà, oui. Donc moi je suis Anne, j'ai invité presque tout le monde, donc vous me connaissez. Je peux passer à Myriam.
C'est pas juste. Donc mon nom c'est Myriam Stoffen, j'habite à Bruxelles, oula, depuis officiellement je pense... 12 ans, mais je suis tombée amoureuse de Bruxelles depuis que j'ai 14-15 ans, plus ou moins, où j'habitais juste en dehors de Bruxelles et on venait faire nos courses ici. Et c'était très vite une ville qui m'a très fortement attirée. Et donc, dès que je pouvais, pouf, je sautais sur mon vélo et je venais à Bruxelles où j'aimais bien flâner dans les rues. Et en fait, j'ai continué à beaucoup aimer la rue. Et donc, depuis maintenant... un bon bout de temps, je travaille pour le projet des Inéco, prennent le temps pendant un an et demi dans la quartier pour construire avec les habitants et différentes organisations des projets artistiques qui se montrent dans la Inéco Parade une fois les 2 ans. Pour le reste, ce qui m'amuse avec votre exercice, c'est que j'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer, mais en tout cas, je trouve l'exercice de rentrer dans un tissu vivant par les mots et la parole, je trouve que c'est très 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 beau. Ça ouvre vraiment beaucoup de pistes et voilà, j'aime beaucoup. Désolée du retard.
Je m'appelle Bram Borlo, je suis né à Louvain, je suis depuis 15, presque 20 ans que j'occupe la ville, que je suis venu faire des études à Bruxelles, et depuis je me sens de plus en plus bruxellois. J'ai toujours habité ici, ce quartier, donc alentour Place Litz, depuis 96. J'ai fait des études artistiques. J'ai fait des études chez Konrad Henel, qui est sculpteur connu. Après mes études, j'ai dû trouver des occupations, enfin des jobs. Et comme ça, je suis tombé sur une autre branche que j'ai touchée pendant mes études, que j'ai approfondie après. Donc, c'est la branche sur l'environnement qui nous conditionne. Je suis devenu guide pour plusieurs organisations bruxelloises, aussi pour des musées. C'est un volet. L'autre volet de mes préoccupations contemporaines, c'est le volet artistique. Donc, j'ai une pratique en tant qu'artiste, multi. J'utilise un peu tous les médias qui m'attirent. Je fais des films d'animation, je fais des peintures, je fais des dessins, forcément. Et puis, donc ça, c'est une branche. Et la deuxième branche du volet artistique, c'est une occupation musicale. Je joue depuis 15 ans dans des bandes différentes. Il y en a qui n'existent plus, mais il y en a qui continuent à exister. La raison pour laquelle je suis ici, c'est un peu... Je trouve que l'idée de faire une réflexion sur un sujet vivant comme la langue, ça c'est très intéressant. Et c'est une façon pour comprendre l'identité d'un endroit très spécifique. Du moment qu'on va se balader, dans le sud de Bruxelles, on parle une langue différente. Et c'est, pour moi, il y a deux grands aspects qui gèrent en fait la langue d'un endroit. C'est les gens qui habitent là, mais aussi les gens qui utilisent le quartier dans lequel tu es. C'est comme nous sommes ici sur une table. La plupart des gens n'est pas d'ici d'originaire, mais rien ne nous empêche de réfléchir sur la langue qu'on utilise en tant qu'humain. Et donc ça, c'est un peu la raison pour laquelle je suis ici.
C'est quoi la question?
Si c'est vraiment tellement spécifique par rapport à un quartier. Donc, on est des quartiers différents ici.
Bien. Yeah.
Mais bon, on ne présente pas la chose.
Moi, je m'appelle Peter. Avec Anne, avec Clémentine, on a commencé ce projet dans le quartier il y a longtemps. Moi, je suis artiste visuel, je fais des interventions dans l'espace public, et c'est aussi ça qui m'intéresse beaucoup, comment les gens se rencontrent dans les espaces publics, et aussi au niveau de protocole, comment tu comprends les règles qui existent mais qui sont écrites nulle part. Donc comment tu connaisses par, je ne sais pas, il y a une connaissance qui est un peu cachée parce qu'on ne sait pas où trouver la connaissance, mais on a quand même cette connaissance. Comment tu circules avec autres gens. Bon, et ça, je trouve intéressant que tu dis... je ne dois pas aller dans le micro. Mais on va annuler quand même ce que j'ai dit, donc ce n'est pas important. comment tu comprends une identité par rapport à la langue qui est utilisée. Et je pense que c'est exactement ça qui nous intéressait au début du projet. On a entendu beaucoup de variations, beaucoup de versions de la langue française, mais ça, c'est même pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de Polonais qui habitent ici, qui utilisent le français, mais pas vraiment pour s'exprimer, mais pour se connecter à un autre un groupe de gens qui l'utilisent. Donc il y a une sorte de système de relais, non, c'est pas ça, de faire des connexions d'un groupe qui a une langue mère qui est différente à un autre groupe qui utilise une différente langue mère. Et le médium, en fait, c'est la langue dominante, la langue courante, mais il y a beaucoup de gens comme moi qui ne sont pas francophones. Donc ça, c'est toute une série de questions qui sont liées et qui sont hyper intéressantes, et on a pensé, oui, ok, donc ça c'est intéressant à investiguer, quoi. Ok, j'habite à Bruxelles depuis 2006, je pense, donc c'est même pas 12 ans, c'est 6 ans, c'est rien. Et donc, je pense, si on a terminé notre petit tour de mots que vous avez trouvé dans la base de données, un des mots qui va revenir, c'est sans doute bruxellois ou scarbécois. Et ça, je trouve aussi intéressant parce que je me sentais déjà bruxellois quand j'habitais encore à Rotterdam, mais je ne savais pas à ce moment-là que c'était le bruxellois qui m'intéresse, en fait. Donc... je travaille pour Constance, et Constance, c'est la SBL qui, en fait, gère la maison ici. Donc, ça suffira, je pense. Et je propose qu'on va passer à faire notre petit tour de mots. Je peux te passer le micro pour peut-être tu peux parler de le premier mot que tu as trouvé dans la base de données, que tu trouvais intéressant.
Ok. Oui. On fait par mot, alors?
Oui, je pense qu'on va... Toi, tu fais un mot, puis on passe à Rachida. On va faire un peu vite comme ça, sinon on va rester...
Et je t'ai expliqué aussi ou pas? Non, juste dire le mot. Hein. Comme méthode. Ok.
Un peu uitleggen waarom dat je die interessant vond, waarom je die gevonden hebt.
Ok.
Vooral als... Ja.
Ok. Le premier mot, c'est Bruxelles. Effectivement. Donc, c'est pas très original, mais... Donc j'avais déjà eu, ce que j'ai fait, c'est regarder un peu globalement. C'est vrai que le premier mot qui m'avait attiré, c'était Bruxelles. Puis après, j'ai fait une lecture plus attentive en regardant quels étaient les autres mots qui me parlaient. Mais oui, Bruxelles, et, donc tu l'as dit, puis que ça reviendra. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a un ancrage particulier vis-à-vis de Bruxelles. Il y a une identité bruxelloise aussi qui s'affirme et qui... et quand on touche à Bruxelles, même en matière de sous-financement ou en matière sur les questions institutionnelles, c'est quelque chose aussi qui me concerne et qui me parle. J'essaie aussi de m'investir dans des groupes de réflexion qui pensent l'avenir de Bruxelles. Je pense à Lola Magna notamment, qui est un sorte de petit think tank qui pense avec d'autres personnes différentes questions, différents enjeux sur l'avenir de Bruxelles. Donc, et puis, comme j'ai dit, apparemment, je crois que je suis, contrairement aux apparences, la plus bruxelloise de vous tous, en fait, étant donné que je suis de cette troisième génération, et c'est intéressant aussi par rapport à tous ces débats-là.
J'habitais quand même bruxelloise.
Voilà.
On est identique à...
c'est bon,
Oui.
Alors, moi, j'ai choisi des mots qui me touchaient fort. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai mis Inch'Allah. Parce qu'en fait, on l'entend tout le temps. Et quand on me dit Inch'Allah, je regarde la personne et je dis, Inch'Allah, il veut dire quoi? C'est Inch'Allah comme moi je l'entends, ou c'est Inch'Allah pour dire, ne me repose plus la question, je ne viendrai pas. Parce qu'en fait, moi, nous organisons beaucoup d'animations avec des groupes de femmes ou des animations sur les groupes d'espace public. Et on leur demande, voilà, aujourd'hui, on est resté local, on a fait une animation. La semaine prochaine, on sort du bureau. Et donc, on va visiter à l'extérieur. Est-ce que vous êtes partant? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous pouvez? Et donc, moi, j'entends bien, si elles ne peuvent pas, on réfléchit à autre chose. Il ne faut pas me dire, Inch'Allah, et puis vous ne viendrez pas. Alors, elle me regarde, et puis elle me dit, non, je ne viendrai pas. Oui, je viendrai. Tu as ma parole. Et donc, voilà. Et donc, maintenant, au bureau, on se moque de moi. Parce que mes collègues prennent rendez-vous avec des personnes pour des audits, et c'est toujours l'Inch'Allah. Et donc, des fois, ça me touche, parce que je trouve que l'Inch'Allah, ça veut dire si Dieu le veut. Et donc, en principe, on le dit parce que, voilà, Inch'Allah, on viendra, mais si mon enfant tombe malade, ou si j'ai un imprévu, voilà, je ne sais pas venir, mais en principe, je viens. Et souvent, on dit ça pour fermer la discussion, quoi. Voilà, moi, je l'avais mis parce que souvent, j'ai beaucoup de discussions avec ce mot. Voilà.
Est-ce qu'ils le disent alors plus pour dire « je ne sais pas » ou parce que tu dis l'utilisation, c'est « comme moi, je le comprends » ou « je ne viendrai pas ».
Mais par exemple, on invite quelqu'un à un mariage. On la connaît peu, mais on l'invite. Et alors, au lieu de dire « non, je ne viendrai pas », parce que je ne te connais pas assez ou parce que je ne sais pas, elle va te dire le Inch'Allah. Mais non, mais tu peux me dire, moi je n'ai pas de... C'est pas grave si tu ne sais pas venir, mais je préfère que tu me le dises en disant, voilà, moi c'est peut-être pas possible, je pense que je ne viendrai pas, que me dire Inch'Allah. Alors là, ça, parce que tu prépares, tu prévois, je veux dire... Quand on organise des ateliers, des animations, c'est tout un travail. C'est pas un travail d'une heure, mais c'est un travail qui est assez constant. Et c'est frustrant pour une personne qui a mis tant d'énergie et puis de dire, eh ben, dans les groupes de femmes ou dans les groupes, on n'a que deux personnes. Elles avaient toutes dit Inch'Allah. Et alors quand tu les revois, elles te disent pourquoi. Mais je dis, mais il ne faut pas avoir peur de moi. Moi, il faut me dire honnêtement, et ce n'est pas grave. Moi, je peux comprendre qu'on a plein de choses, mais il ne faut pas me dire Inch'Allah pour me faire plaisir. Alors, je ne viendrai pas, voilà. Mais je pense que c'est rentré dans certaines habitudes, mais des mauvaises habitudes. Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, je ne sais pas si d'autres personnes ont... Et moi, quand je discute ça avec les femmes, elles sont d'accord avec moi. Mais au début, c'est une habitude qu'elles ont prise de dire, Inch'Allah, on viendra à l'animation hygiène ou on viendra au café des mamans. Et j'ai pas envie qu'on entre guillemets, qu'on salisse ce mot, Inch'Allah. Parce que autour de moi, mes collègues se moquent un petit peu. OK, c'est Inch'Allah, Rachida. Non, mais moi, c'est le vrai Inch'Allah. C'est pas... Voilà, je viens. Voilà.
Vous me dites,
c'était
pas un
gardien
de temps pour.
Non.
Mais mine de rien, ce qui est dit est très important, en fait, parce que le poids des mots. En fait, Inch'Allah, donc traduction littérale, si Dieu le veut, mais en fait, il traduit aussi un certain fatalisme. Et c'est vrai que dans la culture maghrébine, c'est une façon polie parfois de dire non, mais c'est aussi une autre façon de dire je veux bien venir, mais parfois je n'ai pas l'autonomie, l'indépendance d'être le maître de mon propre choix. Ça veut dire que ça pourrait dépendre de mon mari, de mes enfants, de mes contraintes familiales, de mes tâches domestiques, etc. Donc ça traduit ça aussi. C'est pour ça que quand tu le dis, je vois par exemple ces mamans qui le disent, c'est qu'elles aimeraient être là, mais elles ne sont pas toujours maîtres totalement de leur propre agenda. Et ça mériterait véritablement... en fait, ce mot-là, finalement, traduit toute une certaine conception du quotidien et de cette marge de manœuvre qui est très limitée, en fait. Hein. Donc je crois que culturellement, c'est une question qui... Je trouve que dans la médiation interculturelle ou dans les maisons de quartier, en fait, on devrait peut-être prendre le temps de déconstruire ce terme-là.
Et c'est très difficile de dire non. Ça ne se fait pas. On t'invite, tu ne peux pas dire non. Et alors que nous, moi je suis née ici, hein, donc je suis une belgo-marocaine, mais bon, presque belgo-belge. Mais je veux dire, ben non, on peut dire, je n'aime pas, ce n'est pas grave, tu fais une tarte, elle n'est pas réussite, hein. Voilà, mais poliment, gentiment, et pas dire, oh, elle est délicieuse, t'en veux, ah non. Mais voilà, moi je pense que c'est aussi dans l'éducation, on ne nous a pas appris, il faut toujours dire oui, c'est bien, c'est bon, des trucs comme ça, donc voilà.
Dans la première réunion qu'on a faite, il y a d'autres mots comme ça qui sont sortis, qui ont au départ un sens religieux, comme Bismillah, je me rappelle, et il y avait un troisième, je crois. Non, oui. Et par exemple, je crois que c'est celui qu'on utilise pour à table, pour s'excuser ou pour c'est Bismillah, non? Ou avant de faire quelque chose. Voilà. Et là, les gens disaient aussi, il y avait même quelqu'un autour de la table qui disait, mais moi, je ne savais pas que ce mot avait un sens religieux, parce qu'il est tellement utilisé que c'est un peu comme merci, pardon, excuse-moi, désolé, allez, tu vois. Donc c'est intéressant aussi de voir ton point de vue par rapport à quelqu'un qui disait « Ah tiens, ça a un sens religieux. »
Oui, mais... Je ne sais pas comment elle parle, elle est vivante.
Oui, peut-être.
Oui, oui. Un autre mot. C'est pas
bien.
Un peu.
Tu peux voir votre liste. C'est la liste des mots.
Oui. Mais elle va en choisir un encore.
Ça, c'est la liste. Oui. Est-ce qu'on va revenir sur tous les mots ou
Non, les mots qui te parlent, toi.
Oui, je veux dire, on devait en prendre 5. Hein. On aura le temps de faire 5 ou peut-être
mais
pas.
Voyons, non.
Parce que peut-être je choisis autre chose. Parce que j'avais aussi dans ma liste le mot Bruxelles, Brussels,
bruxellois et toutes les possibles variations que j'aurais envie d'ajouter. Mais je vais peut-être pas le creuser, on peut encore venir dessus. Donc moi, est-ce que je peux prendre des mots en binôme, en fait, parce que c'est possible, ça D'accord, parce que... Ah, j'avais plein de mots que j'avais envie d'ajouter, en fait, que je ne trouvais pas. Et donc, voilà, je vais les contourner en faisant des combinaisons qui me permettent de placer quand même le mot qui n'est pas là. Donc, j'ai envie de lier ghetto et grande place. En gros, c'est une manière de parler de l'espace de vie et à la fois l'espace public pour moi. Et je trouve ce qui est très intéressant, c'est effectivement, si cet exercice m'intéresse aujourd'hui, c'est entre autres parce que on regarde aussi de quelle manière des mots signifient quelque chose, mais comme on vient déjà faire un très beau passage, sont porteurs aussi de sens dans l'échange et le regard et le rapport et la relation que tu crées avec l'autre. Et l'espace public par excellence, et surtout à Bruxelles, est l'endroit où, de par la énorme diversité, non seulement culturelle, mais aussi sociale, et les différents âges, des personnes à mobilité réduite, des personnes avec un handicap, avec ou sans papier, avec ou sans diplôme, se croisent au quotidien. Potentiellement dans l'espace public. Et je trouve qu'à Bruxelles, on a encore jusqu'à présent gardé, dans la majorité de quartiers quand même, la possibilité de vraiment avoir une énorme ouverture comparée à d'autres villes ou d'autres développements urbains. Je vais peut-être continuer à parler comme ça. Oui, d'accord. Je trouve qu'il y a un potentiel de rencontre énorme à Bruxelles qui continue à exister. Dans ce sens-là, il y a une ouverture. Donc il y a vraiment beaucoup de, non seulement spatialement, physiquement, mais aussi symboliquement, beaucoup de possibilités de continuer à se croiser. Beaucoup d'endroits qui font croiser les gens de par leur fonction croisée, de par des initiatives qui sont prises. Toi, tu parles de ce que tu fais dans le cadre du contrat de quartier. Nous, ce qu'on fait avec Zinique, parce que je devais les relier à ma profession, c'est ça. Ah bon, moi je suis très docile. Si on me dit ce que je dois faire, je le fais. Une blague. Ce que je trouve très intéressant, c'est de relier des espaces physiques, mais aussi des espaces mentaux, et de renforcer cette possibilité de se croiser au-delà de ce qu'on connaît. Et dans ce sens-là, ghetto et grande place, par exemple, pour rentrer avec une anecdote, c'est que une des choses qu'on a très fortement découvert avec Zineke pour le jour de la parade, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de quartiers qui sont à peine à 500 mètres du centre-ville de la grande place et qui viennent de par le fait qu'ils ont un lien avec un enfant ou un adolescent ou un animateur ou une animatrice qui est liée à un projet de parade. Qui viennent pour la toute première fois dans le centre-ville et qui voient pour la toute première fois, malgré le fait qu'ils habitent depuis des décennies à Bruxelles, qui voient pour la toute première fois la grande place. Moi, je trouve ça très touchant. On connaît l'histoire des espaces, tout ça. Donc, on organise nos propres espaces et y en a qui connaissent des périmètres qui sont extrêmement réduits, on le sait. Il y en a qui voyagent d'une toute autre manière, mais qui pour moi peuvent peut-être se déplacer très loin, mais pour moi c'est pas nécessairement un esprit. Enfin, ça montre pas nécessairement une plus grande ouverture. Dans ce sens-là, je trouve que ces mots-là sont très intéressants et je trouve que ce potentiel de croisement et donc de confrontation entre personnes, de par le fait qu'ils se croisent, ils vont oui ou non se heurter, se rencontrer dans le tram ou faire quelque chose ensemble à travers d'un projet, permet vraiment, je trouve, réellement à décloisonner beaucoup plus que simplement de par le fait qu'on va faire des activités cosmopolites, disons, et de s'ouvrir à ce qui sont simplement des espaces d'apparence, d'objets, qu'on essaye de partager. Mais c'est de par le fait qu'on essaye de faire des choses ensemble qu'il y a moyen aussi de construire une langue commune. Mais langue commune dans le sens, on confronte le sens que ça a, on questionne les coutumes à partir de là. Et voilà. Je voulais simplement relier ces deux mots-là, dans un premier temps.
Et tu as entendu que le mot la grande place est parlé par une petite garde dans le quartier qui parle en fait de Birke, qui ne parle pas du tout de grande place, mais pour lui, ça c'est les grandes places. Mm-hmm. Donc, je trouve super intéressant que le ghetto et les grandes places,
voilà.
Ils se mélangent. Quoi, pour
oui.
Le même lieu peut être considéré comme une ghetto,
oui.
Pour une autre personne, ça pourrait être le centre du monde.
Oui. Oui, et dans ce sens-là, enfin, je trouve que la, mais là, on dépasse un peu la question de la langue, mais le fait de enfin, comment un espace est vécu. Enfin, on prend pas assez de temps, de manière générale, je trouve, à Bruxelles, de voyager à l'intérieur de ses propres espaces de vie, donc son propre quartier. Et c'est ça qui me plaît beaucoup à Bruxelles, c'est que y a moyen de continuer à se balader sa grande place, sa propre grande place dans son propre quartier, jusqu'à considérer certains quartiers plus huppés comme étant des grands ghettos. Et ça, c'est des voyages qui, je trouve, à Bruxelles, sont sans fin. Enfin, je mène dans toutes les villes, mais à Bruxelles, je trouve que là, il y a vraiment un potentiel incroyable qui, moi, chaque jour encore, m'étonne très fort.
Tu voulais dire
quelque chose ? Je vais répondre
en deux mots. En deux mots, sur le constat, je suis d'accord, sur le fait qu'il y a effectivement il y a un potentiel d'espace, mais qui n'est pas effectif. Donc Bruxelles est une ville vraiment très duale, en fait. Il y a vraiment une ségrégation. Je veux dire, c'est quand même, les gens d'Uccle ne viennent pas à Molenbeek, les gens de Molenbeek ne vont pas à Oudergem. Et donc il y a des vraies frontières symboliques et sociales. Des gens qui habitent au sud de Bruxelles ont peur de venir dans ma commune, par exemple, à Molenbeek. Et même s'il existe ce potentiel de croisement, en réalité, les gens sont très, très repliés sur eux-mêmes. Et même si on a de belles expériences, comme la Tineke Parade, où c'est une des rencontres interculturelles, internationales, vraiment de tout, je veux dire, ça reste quand même des expériences qui sont, inédites, et les gens ne se croisent pas à Bruxelles. Les gens ont peur de sortir de leur leur quartier. Et je crois que, même s'il y a ce potentiel, pour moi, il y a vraiment une absence d'interaction, mais vraiment très profonde. Et les personnes qui sont dans ces interactions sont très minoritaires, et on doit toujours essayer d'être un peu des ambassadeurs de relais, quoi. Viens, on va aller vers là-bas, l'autre, venez voir un peu comment ça se passe. Et je pense que c'est vraiment là aussi un des enjeux de notre ville, quoi. Donc, je partage ton optimisme et ce potentiel-là, ce constat-là, mais de façon effective, est-ce qu'il y a véritablement ce patchwork, qui est l'un des mots que j'ai utilisé, en fait. Donc, voilà. Oui, c'était un des mots que j'avais choisi. Et pour expliquer mon deuxième terme, l'un des termes utilisés que j'ai choisi, c'était patchwork, parce qu'on n'utilise pas souvent. Quand on regarde un patchwork, c'est quoi ? C'est de prendre des morceaux de pièces différentes pour en faire quelque chose. Et pour moi, l'identité bruxelloise, c'est véritablement ça, en fait. Hein. Que ce soit au niveau artistique, que ce soit vraiment cette hybridité, que chacun a quelque chose à apporter. Et on en fait quelque chose de beau, en fait. Et je crois que ça répond donc à cette question d'espace de rencontre. Il faudrait qu'il y ait ça pour justement construire un nous commun, un nous bruxellois, un nous... Et pour moi, le mot patchwork, pour moi, ça reflétait vraiment la beauté de cette pièce avec ses morceaux différents, quoi. Enfin, il faut aimer le patchwork aussi, il y en a qui n'aiment pas, mais moi, je trouve que c'est très joli. Ces trucs un peu mélangés, un peu parfois kitsch, quoi. Voilà.
Est-ce que je peux répondre par rapport à cette mixité ou ce patchwork, tu disais Tu trouves que ça c'est assez inédit, voilà. Mais j'ai un exemple, moi ici dans le quartier, hier, je suis allée au jardin ouvrier qu'il y a juste derrière, là, où il y a plein de gens de partout, des fois, qui viennent de Molenbeek juste parce qu'ils ont leur jardin là. Bah parce que aussi ils habitaient peut-être avant à Skerbeek ou quoi. Mais moi, je me retrouve avec des gens. Là, hier, j'ai mangé avec des gens qui parlent plutôt turc, mais qui viennent du Kurdistan, enfin, qui sont kurdes, en fait. Et je me retrouvais... normalement, je m'adresse avec un monsieur... Enfin, je vais voir un monsieur qui m'invite toujours comme ça, viens manger, viens boire, partager avec nous. Et hier, il y avait toute la famille quoi, qui était là, les enfants, les femmes... Et c'était, voilà, bienvenue, welcome. Et heureusement, là, aujourd'hui, hier, il y avait le fils qui était là, qui parlait le français. Du coup, on a pu un peu échanger, parce que sinon, avec le père, c'est... Chaque fois, il me donne des racines, et il me fait tac, tac, toc, toc, plot, l'eau et machin, pour m'expliquer comment il faut faire pousser. Et c'est un endroit, vraiment, où je rencontre des gens, ouais, que j'aurais peut-être pas rencontré ailleurs, quoi. Et il y a un accueil aussi super, super fort, quoi. Alors, moi, je viens de France, donc je sais pas, j'ai pas vécu ça en France, mais à Bruxelles, je trouve ça... Donc, je trouve pas que ça soit inédit. Je trouve qu'il y a vraiment un grand... une ville où on rencontre des gens... voilà.
Il peut aussi parler.
Qu'est-ce que je dirais Oui. Donc, oui. Qu'est-ce que je dirais
On parlait de patchwork.
Oui, patchwork. Un autre mot que moi je voudrais ajouter à ce patchwork, c'est melting pot. Mmh. Ça, c'est aussi une.
Non,
c'est pas dedans. Non, j'ai encore d'autres propositions aussi. Oui. Mais je trouve que cette idée de... parce qu'on vit dans une ville où il y a beaucoup d'identités différentes. Il y a une longue tradition depuis l'existence de la ville. En fait, c'est... Bruxelles, en fait, c'est né sur l'endroit où la langue romande et la langue... dus de Romaanse en de Germaanse talen die ontmoeten elkaar in Brussel. Et c'est là que Brussel est né, donc la rencontre de langues romane et germane depuis 1000 ans. Ça c'est une constatation et ça vit toujours dans la ville aujourd'hui. On sait qu'on vit aussi dans 2012, dans un monde globalisé, un monde assez arche, dur. Moi, je vois aussi, je constate aussi que Bruxelles est une exponente globalisée en tant que ville, une des villes occidentales qui globalise le plus vite. Je veux dire occidentale parce qu'en Afrique, ça va encore beaucoup plus vite. Mais donc, ça signifie qu'il y a des confrontations dans la ville, avec la ville elle-même, parce que les gens riches et pauvres vivent à un seul endroit. Il suffit de se balader au centre-ville et on voit la pauvreté partout. Mais on est dans le cœur dans la cœur de la capitale européenne. Et donc, cet paradoxe, c'est typiquement bruxellois, je trouve. Et une des expressions qui dit ça très bien, c'est melting pot, je trouve. Une autre expression que je voudrais ajouter, c'était l'expression qui est typiquement bruxelloise, c'est une expression qui dit « enstoemelings ». Mm-hmm. Enstoemelings, ça signifie que les choses se font en semblant par hasard, mais le hasard n'est pas là. Donc, et moi, ça c'est aussi typiquement bruxelloise au niveau que les choses se développent ici. Ça a à voir avec la tradition la tradition capitale, en fait, parce que depuis aussi longtemps, Bruxelles est une capitale. La structure, comment le pouvoir est géré, c'est pas clair. Et une des expressions qui explique ça le mieux, c'est « enstoemelings », parce qu'on comprend très bien
qu'il y a une logique, mais nous, en tant que gens, on ne peut pas comprendre cette logique. Donc il y a des choses qui sont... enfin, je trouve que c'est une bonne expression entre donc, les choses pratiques et les choses qui sont un peu autour de notre tête, mais comment on a géré, en fait. Et ça, je trouve une belle expression. Et c'est aussi, en plus, c'est une expression typiquement... Donc, c'est une expression qui est peut-être moins connue chez les nouveaux bruxelloises, mais chez les vieux bruxelloises, c'est une expression très, très souvent dite.
Bah, les vieux bruxellois sont...
Mais c'est drôle parce que les significations...
En Stoumeline, pour moi... Quand je vais faire ça en Stoumeline, ça veut enfin en Schmett ou ça, les Schmett, c'est les jeunes qui disent, mais moi, en cachette, par exemple, il y a des projets que je ne peux pas faire parce que ça ne rentre pas dans les mêmes missions, des animations sur le sommeil pour sensibiliser les enfants et les parents. Alors, je dis à ma collègue, je vais faire ça en Stoumeline, c'est deux après-midi avec l'école, ça va. Voilà, donc le Stoumeline, pour moi, c'est pas un hasard, mais c'est sûr que je le fais, mais... en cassette. Alors le melting pot, pour moi, mais bon, c'est Rachida qui le melting pot, c'est quand moi je parle et je saute du coq à l'âne et je fais ça et je dis ça et je fais... Voilà, c'est un melting pot, tu prends un peu de... Je mélange et ça fait un melting pot. Pour moi, c'est ça. Voilà.
Comme un body.
Oui, voilà, un petit peu. Ah, mais le... Voilà.
Oui, c'est dommage, parce que moi, où l'ouverture existe et où l'ouverture est un potentiel mais qui n'est pas, toujours là. Et un exemple, oui, je crois qu'on peut donner des exemples des deux côtés. Moi, ça m'intéresserait de développer cette idée de comment une langue une liste de mots, disons, pourrait... Allez, c'est une question. Okay. Donc, si vous participez à des groupes qui réfléchissent sur l'avenir de Bruxelles, est-ce que le langage, la langue, en fait partie? Non.
Français-néerlandais qui est
utilisé, non. Et, oui, moi, j'aimerais bien poser la...
Non.
J'aimerais bien poser la question, est-ce que vous pourriez élaborer un argument pourquoi un exemple comme... Inch'Allah, analyser un mot ou commencer à utiliser activement un mot pourrait influencer l'avenir de Bruxelles.
La compréhension de l'autre, tout simplement. Oui. La compréhension de l'autre, hein, comprendre l'autre, en fait, hein, dans sa façon... Et ça se pose partout, hein, dans les écoles, dans les hôpitaux. Je veux dire, je dirais pas conflit culturel, mais c'est... C'est malentendu culturel, en fait, hein. Et donc qui sont pas parfois. Je veux dire, enfin, c'est pas le choc des civilisations non plus, mais je veux dire, il y a parfois de véritables mésententes culturelles. Et là, avec cet exercice, je me rends compte que il suffit pas d'être bilingue à Bruxelles, hein. Il faut aussi être quelque part multilingue en termes d'utilisation de dialectes, du langage jeune, du langage académique, du langage avec des personnes, du politique. Et en fait, maintenant, je me rends compte qu'on ne parle pas de la même façon avec tout le monde. Quand je suis invitée, par exemple, à faire un petit séminaire, une petite conférence à des femmes d'une mosquée, je me rends compte qu'on n'utilise pas les mêmes mots pour les sensibiliser. Et même en termes de valeurs et de référentiels, par exemple, pour leur parler de l'importance de l'émancipation de la femme, je ne vais pas nécessairement prendre comme exemple Badinter ou Christine Delphi ou que sais-je, mais je vais peut-être prendre des femmes qui font partie de leur histoire, quoi, hein. Donc, par exemple, de grands noms de femmes de l'islam qui étaient engagées, etc., parce que ça leur parle plus. Donc, il y a le langage, mais aussi le référentiel, pour que le message passe. Quand je vais parler maintenant des gens de la diversité avec des personnes qui sont plus dans l'élite, je me rends compte aussi que c'est une autre façon d'aborder. Donc finalement, on n'est pas nécessairement que bilingue, mais il y a aussi des différents niveaux de langage et différents codes. Effectivement, c'est vraiment des codes culturels. Et Inch'Allah, c'est clairement dans ça. Hein. Mashallah, qu'on entend partout. Mashallah, utilisation... même les Marocains. Oui, quand on dit quelque chose est beau, oh, machallah, c'est beau. Vous avez jamais entendu ça? Ah, machallah, c'est beau. Et alors, Facebook a aussi complètement changé les données parce que les gens parlent ouvertement à partir de leur propre langage. Et donc, les jeunes vont dire, ah oui, donc, en utilisant, oui, mais que Dieu te protège, quelque chose qui est très, très familier dans la culture marocaine, va être utilisé dans des espaces où des personnes ne sont pas familières à ce langage. Je ne sais pas si vous utilisez Facebook. Et si vous avez dans vos contacts des jeunes du quartier, ça, c'est vraiment très fort. Et là, on voit bien aussi qu'il y a confrontation de différents mondes, en fait. Hein. Et je me rends compte que même des instruments comme Facebook et des réseaux sociaux, par le fait qu'ils permettent de créer des espaces d'échange et de dialogue, eh bien, réinventent aussi un nouveau langage. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le métro, c'est, vraiment faire de la sociologie dans le métro, c'est extraordinaire, parce qu'il y a des choses, c'est de voir, par exemple, des personnes d'origine congolaise, des jeunes noirs, dire « ouais, voilà, voilà, voilà », qui veut dire « je jure par Dieu », quoi. Et moi, je fais ça parce que j'ai grandi dans une école catholique et j'ai le réflexe de dire « je jure » comme ça. Et donc, on voyait ce mélange comme ça, hein, qui est fait donc d'utilisation d'argot, du tangérois, donc le stumuling qui c'est « enchleit » ou « enchmet », « tuahayar », « tuahayar ». Donc, on conjugue aussi en français des termes de l'argot arabe. Hein. Donc, « tuahayar »,« jahayar »,« yahayar », »,« nahayron », »,« hayar », c'est « tu exagères ». Ça, c'est un terme aussi qui est utilisé partout, qui se réapproprié par des belgo-belges jeunes des quartiers populaires. Hein. Vous voyez, finalement, ce métissage en matière de langue et des exemples comme ça, il y en a des tas, vous en avez déjà repris une bonne partie. Mais en étant attentif dans les bus et dans le métro, dans le quartier, surtout quand on a affaire à des jeunes qui viennent d'horizons culturels différents, eh bien, c'est intéressant. Même parfois, c'est intéressant de voir que même des jeunes issus de familles bobo utilisent aussi ces mots-là parce que ça fait brancher, des choses comme ça, quoi. Donc là, je crois qu'il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur l'argot. Donc voilà. Et l'autre mot que j'avais choisi, donc multiculturalisme, ça, de toute façon, ça n'a pas la peine d'expliquer. Et puis, j'avais utilisé quand même le mot racisme parce que, effectivement, c'est beau, machin, tout le monde. Mais je crois que la question du racisme, c'est quand même une donnée fondamentale. Et je crois qu'en ces temps de crise économique et sociale, et financière, ça devient quand même, les gens se crispent de plus en plus, il y a quand même vraiment de véritables tensions et de replis de part et d'autre, hein. Et il n'y a pas un repli qui va que dans un sens, mais je crois que la question du racisme est une question structurelle fondamentale, que ce soit à l'école, dans le monde de l'insertion socio-professionnelle, ça commence très tôt le racisme, hein. Et l'institutionnalisation du racisme aussi, qui est quelque chose aussi d'important à relever, qui parfois passe comme une lettre à la poste dans le discours médiatique et dans le discours politique, même mainstream des partis traditionnels, et je crois que ça c'est aussi quelque chose, enfin pour moi un mot qui était assez important. Voilà, merci. Excusez-moi d'avoir été. Je serais bien intéressée parce
que. Pour revenir un peu sur ce qu'a dit Fatima sur la question de la dualité et que c'est ce potentiel de rencontre à Bruxelles qui très souvent, surtout au niveau de l'éclivage social, n'existe pas. Ben, évidemment, on est d'accord. Par contre, je pense réellement que ça dépend de quelle manière on regarde la ville et comment on est vraiment en lien et on est en contact au quotidien avec ce qui se passe réellement entre les gens dans les espaces de vie. Et dès qu'on va un tout petit peu plus loin, on découvre vraiment très facilement, partout, dans tous les quartiers de Bruxelles, des réels espaces de rencontre où des gens se connaissent, se parlent, se connectent, se confrontent, mais à la fois font des choses ensemble, même si c'est très light. Hein. J'avais quand même envie de le dire. Et pas pour rester sur une note de positivisme, hein, c'est pas ça. Je crois que c'est simplement un niveau de regard. De quelle manière on lit, on est sensible, on écoute, on voit réellement ce qui se passe. Et je crois qu'il y a une énorme richesse qui existe réellement au quotidien en termes des qualités de d'échange et de d'hybridisation. Le mot a été tombé tout à l'heure. J'aimerais bien aussi dire quelque chose sur le mot de patchwork. Pour moi, patchwork c'est un mot qui me fascine moins dans le sens que il pour moi, ça reste encore trop des pièces qui sont mises l'un à côté de l'autre et qui ne sont pas assez dans un réel échange. Je trouve intéressant le niveau d'échange où ce que tu me dis me transforme, me confronte avec l'interprétation de ce qui est dit ou de l'idée que j'aurais de qui tu es, ou ce qu'une communauté est, ou ce, que, enfin, ce qu'une réalité, comment je la lis, et qui change mon regard, qui change ma manière de penser, qui me nourrit. Et dans ce sens-là, mais bon, ça c'est à nouveau une interprétation, le mot patchwork pour moi ne réussit pas encore à aller plus loin. Et pour décrire Bruxelles, je dirais du point de vue global, là je dirais plutôt, je trouve qu'effectivement il n'y a pas assez de patchwork, ne fût-ce que ça, à Bruxelles. Donc je dis d'un côté, au niveau des contacts très microscopiques, quand on regarde un tout petit peu, il y a plein de liens et d'échanges et de débridisations, mais à la fois, là je rejoins tout à fait ce que disait Fatima, les clivages mentaux restent encore énormes, et surtout au niveau social. Et donc là, je dirais que c'est encore plus que culturel. C'est la culture des pauvres et des basses classes sociales qui quelque part, ne rencontrent pas facilement les cultures dominantes. Et donc, enfin, on n'a pas encore parlé de ces aspects-là. Et donc, je crois que à ce niveau-là, il y a, enfin, comme malheureusement partout dans le monde, hein, mais donc à Bruxelles aussi, là il y a des réels énormes clivages. Et dans ce sens-là, parler de Bruxelles comme une ville patchwork, ça, je trouve que ça enlève à la fois les deux, à la fois la description des énormes clivages et des exclusions sociales qui existent sur tous les fronts, hein, si c'est le taux de pauvreté, taux de chômage, mais aussi le fait que on ne fait rien avec nos jeunes pour réellement les amener dans une trajectoire où ils grandissent et qu'ils trouvent leur place dans cette société, qui réussissent même pas à avoir un diplôme, etc. Pas les jeunes, hein, que nous comme système, on ne réussit pas à leur donner un diplôme, hein, c'est dans ce sens-là. D'une part, et d'autre part, quand même, au niveau microscopique, c'est cette poésie quotidienne de ces rencontres qu'il y a dans tous les sens. Et dans ce sens-là, je trouve que le mot patchwork serait une manière de décrire Bruxelles qui moi, me met mal à l'aise, parce que ça cache aussi bien cette dualité extrême, d'une part, et la poésie de l'intense rencontre quand même par ailleurs. Enfin, je sais pas si
il y a d'autres mots pour remplacer patchwork.
Ben là, je reviens peut-être sur j'ai pas parlé du mot bruxellois. Pourquoi effectivement en premier je l'avais aussi choisi. C'est moi je trouve intéressant ce que moi j'aime bien beaucoup à Bruxelles, c'est le fait que quand on parle d'une identité bruxelloise, moi j'aurais tendance à dire, ce que je trouve intéressant en Bruxelles, c'est que Bruxelles a des identités, une identité qui n'en est pas une. Qui n'en est pas une, ça veut dire, c'est pas une identité, mais c'est pas une identité non plus. Donc c'est pas figé, donc c'est multiple, c'est multicouche, c'est à géométrie variable dans tous les sens. Et aussi au niveau de la personne, hein, donc je dirais, on parle de... Fatima parlait tout à l'heure du fait que ça dépend à qui tu parles, de quelle manière tu parles et quels sont les référents que tu vas utiliser, mais aussi en décrivant qui je suis... Déjà, au niveau de chaque personne, l'identité change selon le contexte où tu es, parce que on est tous habités de plein de choses qui nous nourrissent et qui nous transforment tout le temps au quotidien, et entre autres par cette incroyable mixité qu'il y a. Voilà, je voulais réagir sur ces quelques mots. Et
est-ce qu'on continue le tour
de... Oui, mais si c'est
ça. Oui.
Parce qu'il y a des liens, en fait. Oui. Comme ça, on fait.
Donc, moi, j'avais... À un certain moment, Fatima a parlé du mot racisme. Et moi, j'avais mis dans mes mots, j'avais choisi deux mots, mais qui se ressemblent un petit peu. C'est blédard et smex.
Et donc, quand j'ai commencé à entendre ces mots, je me suis dit, ça va pas. Ça va pas. Et donc, quand j'entends un jeune qui dit, oh, c'est un blédard, et donc un blédard, c'est quelqu'un qui vient du bled, et donc c'est souvent les primo-arrivants qu'on on leur met et alors je l'interpelle, je dis, toi, tu l'appelles blédard, papa, il vient d'où? Ton père, il vient d'où? Alors elle me dit, ah, il vient du Maroc, c'est aussi un blédard. Ah non, c'est mon père. Et je lui fais la morale parce que je lui dis, tu ne peux pas le traiter de blédard. Et bled, c'est la campagne aussi, c'est un petit peu comme campagnard. Donc, je suis vraiment triste d'entendre ça au niveau des troisième et quatrième générations. Ces jeunes qui utilisent ce mot sans se rendre compte que c'est un mot qui fait mal, qui est blessant. Et alors,
est-ce qu'il fait vraiment mal?
Ah oui, quand on a des classes de primo-arrivants qui sont à l'école Cardinal Mercier, et quand je parle avec des jeunes, et puis à côté il y en a d'autres, c'est un blédard. Oui. Et alors? Oui, attendez, je l'ai mis. Donc moi je vais faire trois liens parce que comme ça, voilà. Et alors j'avais mis blédard et smex. Alors, SMEX, ce sont les personnes qui sont sans papier, sans moyen d'existence. Et donc, moi, j'avais entendu ce mot il y a 8 ans. Et donc, quand j'entendais mes neveux de 18, 20 ans utiliser ce mot, je dis, mais pourquoi tu traites... je dis, mon mari aussi était sans papier ici. Ah oui, mais c'est vrai, je vais oublier. Excuse-moi, mais je dis, tu ne peux pas traiter les gens comme ça. Il ne faut pas oublier que ton père, il a eu la chance, il y a eu le regroupement familial, il a pu venir. D'autres personnes, voilà, tu ne dois pas te moquer. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, les jeunes, maintenant, utilisent beaucoup ce mot quand une personne était en situation illégale ici. Donc, voilà. Où ils parlent aussi un petit peu, ils ont un langage très, un peu comme Gad Elmaleh. Je ne sais pas si vous voyez, c'est comique. Un juif de marocain, mais il parle comme un blédard, comme un smex. Ouh, tu es beau. Mais c'est un comique. Hein. Mais donc, les jeunes, ils aiment bien ce langage, mais ils n'aiment pas l'étiquette de smex. Donc, moi, j'ai mis blédard, smex. Et alors, je remets aussi, parce qu'on peut faire des petits signes d'étoiles, flamands. Ah, tes enfants sont des flamands. Oui, si tu veux, mais j'aurais bien envie qu'ils parlent bien flamand. Mais oh oui, ils font leurs devoirs, ils vont à l'école, ils lisent pendant les vacances. Ce sont des flamands. Mais je suis la seule à combattre sur ces mots. Je suis tout le temps... Alors, on est dans ma famille, on est 12. On est 12, on a tous fait des études. Mais je suis la seule à réagir. Peut-être parce que je suis... une des seules à travailler avec d'autres communautés. Et donc, moi, ça m'attriste d'entendre qu'on traite quelqu'un de flamand. Et, ou alors, c'est le flamand, c'est celui-là qui travaille, mais c'est aussi le flamand, le belgo-belge. Et donc, moi, voilà. Donc, moi, j'ai mis un petit peu... Oui, mais ça me touche, mais dans le... moi, je n'ai pas mis des mots... Oui, j'ai mis maroxellois. C'est un positif, les autres, mais... Voilà, ce sont des mots qui me touchent énormément, où je réagis, où... voilà.
Mais Maroc, tu disais Maroc...
Et alors, pour moi, Maroc, c'est loin, ben voilà, moi je suis quoi? Moi, je suis Rachida, je suis née en Belgique, j'ai 43 ans, j'adore la Belgique. Quand je vais en vacances au Maroc, après une semaine, j'en suis malade. Dans mes bagages, il y a mon Douegbert, il y a ma vente de mortel, ma confiture bonne maman et mon Nesquik. Voilà, et je ramène tout ce qui est belge de l'autre côté. Et mes collègues me grondent parce qu'ils me disent, oh, Maroc, il y a quand même des bonnes crêpes. Oui, mais j'ai besoin de mon café Douegbert, j'ai besoin de... Voilà, donc, voilà, moi je me situe plus belgo-belge parce que je suis née ici, j'aime mon pays aussi, mais j'y connais pas grand-chose, hein, mon pays. Et je conjugue, comme elle a dit Fatima, en français, avec le verbe en arabe, qui ne veut rien dire du tout. Hein. Mais c'est parce que, voilà, on fait un melting pot, on mélange, et voilà.
Donc voilà, je voulais dire ça et que j'aimais beaucoup la Belgique. Voilà. Voilà, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail. Il y a plein de choses qui ont été dites hein, par toi, Myriam, et par Fatima, où de temps en temps j'avais des choses à dire, mais voilà, on n'a qu'un seul micro et on ne peut pas dire stop à nous la parole, mais voilà. Et la question, qu'est-ce qui fait à Bruxelles, qu'est-ce qui fait que des gens de Uccle viendraient à Schaerbeek? Et pourquoi? On vient quelque part pour quelque chose. Moi je vais à la Zineke Parade, je ne vais jamais en ville parce que pas le temps, pas parce que je n'aime pas la ville, hein, mais je ne fais qu'une fois pour les soldes. Et la Zineke Parade, ben, y a un événement, on y va pour voir quelque chose qu'on aime bien. Pourquoi des gens viendraient ici à la Cage aux Ours? Qu'est-ce qui fait que... On va voir un rond-point, mais il y en a partout, hein, des ronds-points. Hein? Il y a des gens d'Uccle, il y a des gens d'en dehors de Bruxelles, mais qui viennent travailler, et à partir de l'école, on sort, et on n'a pas envie. Sauf s'il y a quelqu'un qui tire. OK, il y a une expo, Art Nouveau, Horta, il y a la façade, et voilà, ils sont prêts à sortir. Et ils sont... Mais... J'avais un morceau de cerise. Mais il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de venir? Moi aussi, je ne vais jamais à Uccle. Hein. Pourquoi je vais aller à Uccle? Oui, s'il y a la brocante de l'année, une belle brocante, qui va me faire que je vais aller à Rue van de Kinderen, au chaussée d'Alzenberg. Mais il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller? Puisqu'on a maintenant un monde qui fait qu'on court, on court, on court, même le week-end. Il y a tellement de choses qu'on... Il y a tellement de choses qui font que quand on est quelque part, il faut qu'il y ait un objectif. Et puis on a des habitants ici dans le quartier. Plein d'habitants, des gens très bien, aisés, mais qui n'occupent pas l'espace. Qui ne vont pas acheter leur pain à la boulangerie de Mamidou, de je ne sais pas quoi, de Mohamed. Qui vont de l'aise. Non, ils vont de l'aise, Richard Van de Velde. Donc ce sont des amis à moi, mais je ne vois jamais sur l'espace public. Monsieur, je vois sur l'espace public. Monsieur aussi sur le vélo. Maintenant, je me rappelais. Voilà, il a deux petits-enfants. Mais les gens ne gravitent pas. Ils viennent, certains sont venus ici, ont acheté ici parce que ce n'était pas cher, mais ne gravitent pas, ont peut-être cette inquiétude. Il faut les faire sortir, il faut les faire découvrir. Et tout ça, c'est du temps, c'est du travail, et qui va le faire?
Il y a quelque chose dans ce que tu dis. Je suis d'accord avec le fil rouge de l'histoire, mais les gens qui se mettent en recul, qui va vivre dans un quartier où c'est pas cher, souvent c'est un quartier qui est pour une multiple de raisons qui est défavorisé, où il y a un sens de se sentir dans une identité. Prenez ici la place Pavillon, on sent qu'on est au Rif, au Maroc, mais en fait, c'est pas vrai. Mais on a ce sentiment une fois qu'on est là. On sait que la diversité à Bruxelles est là, mais il faut aussi que les gens d'un quartier... Enfin, les gens, ils utilisent une identité pour se cacher, pour se...
C'est la peur, hein?
C'est ça. Donc, c'est trouver une identité. Donc, langue, identité, ça se mélange en tant qu'idée. Et ça, c'est facile pour se... Pour prendre une certaine attitude... je me souviens un graffiti qui disait « Tous les Marocains sont juifs ». Tu vois, cette idée, c'est de faire des insultes à quelqu'un d'autre. Et en fait, si tu vas encore un pas plus loin, c'est une façon de... Cette personne qui fait l'insulte n'est pas capable de regarder en soi. Et là aussi, il y a quelque chose typiquement... bruxelloise, je trouve, parce qu'on parle souvent qu'on vit avec 100 et des nationalités dans une ville et que tout ça va bien, mais moi je crois qu'on fait en fait une coexistence, qu'on coexiste l'un à côté de l'autre, et si on veut, on va se mélanger, et si on a, s'il y a une valeur en plus pour se mélanger. Et la Zineke Parade est un très bel exemple de cette idée, on va se mélanger. Mais en fait, on continue à, une fois que cette parade est passée, okay, il y a une deuxième qui va suivre un certain Bouddha. Mais à ce moment, après, on va se reculer de nouveau dans notre propre identité. Donc cette identité, c'est quelque chose qui est aussi très, très... comment on dit c'est comme un élastique. Je me prends maintenant cette attitude parce que j'ai ça en tant que... j'ai ça en tant que... je trouve pas un mot, de belang. Belang van iets. L'importance d'avoir quelque... Donc on utilise en fait la langue souvent... il y a encore un autre truc que je voudrais ajouter, c'est souvent à Bruxelles, et on parle souvent des gens qui sont à Bruxelles, qui ne sont pas bien, mais il y a aussi une attitude là-dedans, parce que si, il faut s'imaginer que tu éduques dans un quartier où il y a très peu de chances pour se développer dans la société, comment tu vas te comporter à certains moments si tu... reçoit des changes et tu peux pas faire quelque chose avec ça. Il y a une désillusion après. Ok, tu vas te retrouver le courage pour retravailler, mais à un certain moment, tu dis fourte. Je fais plus d'efforts pour. Et donc, je vais déranger pour souligner mon identité. Et souvent, si on se balade aujourd'hui à Bruxelles et on voit tous ces biscottes qui sont cassées, il y a un nouveau biscotte et place pavillon, mais ça va durer combien de temps avant que ça va être cassé? C'est le fait que ça soit cassé, c'est une recherche d'une grande réseau des jeunes qui s'ennuient à fond et qui sont à la recherche d'une attitude, une attitude par agressivité, mais c'est une attitude. Et ça, c'est aussi quelque chose que, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça doit être dit ici, à cette table.
Mm-hmm. Voilà. C'est une petite réaction, parce que je pense...
Schaarbeek is echt een woonbuurt. C'est vraiment un quartier résidentiel. Il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent dans l'espace public, mais il y a beaucoup de gens qui habitent ici, qui viennent ici pour le but d'habiter ici. Mm-hmm. Et je ne suis pas sûr si on doit changer ce caractère de quartier, mais il y a une chose connectée à le biscotte qui est cassé. La vitre se casse partout, hein, aussi mm-hmm. à Saint-Gilles et aussi oui, dans le centre. Oui. Mais là, tu vois aussi autre chose dans l'espace public. Et ici, tu vois très peu de femmes dans la rue, dans la soirée. Il n'y en a pas. Ils sont dans la maison. Et ce n'est pas grave. Mais
C'est mal vu, non?
C'est mal vu.
Et si ça va, on peut s'estimer heureux, mais il faut aller dans le quartier Coteau-Josaphat.
Oui.
On a des hommes qui interdisent leurs femmes de passer dans certaines rues. Donc, pour déposer les enfants à l'école... Ils nous ont dit, mais écoutez, moi, je ne passe pas devant ce café parce que mon mari ne veut pas. Et donc, je dois faire tout un grand détour. Alors, moi, j'étais furax, mais il ne veut pas. Il a qu'à aller déposer lui-même, alors. Et ils ont commencé à rigoler. Je dis, mais c'est quoi ça?